VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mousseau et Anne Albertson, voici les titres de ce mardi 17 novembre.
Attentat de Paris, le secrétaire d'État américain John Kerry en visite éclair à Paris pour témoigner de la détermination des deux pays à lutter contre le terrorisme. Le porte-avions Charles de Gaulle va être déployé en Méditerranée orientale avec 38 chasseurs au total. La France va pouvoir intensifier ses opérations en Syrie, comme l'a annoncé le président François Hollande.
Du côté de l'enquête sur les attentats meurtriers, deux suspects inculpés en Belgique et toujours aucune trace de Salah Abdeslam, visé par un mandat international. Le point complet dans ce journal.
Centrafrique, l'ONU va envoyer 300 casques bleus sénégalais en renfort. Ils seront redéployés temporairement pendant une période de 8 semaines, soit la période électorale.
En RDC, Maman Sidikou du Niger a pris ses fonctions au poste de représentant spécial de l'ONU à la tête de la mission des Nations Unies dans le pays. Il succède à l'Allemand Martin Kobler.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Tout d'abord, le journal. 3 jours après les attentats de Paris, 5 des 7 kamikazes ont été formellement identifiés. Les enquêteurs français et belges sont toujours à la recherche de Salah Abdeslam, cet homme de 26 ans qui aurait participé activement aux fusillades dans plusieurs quartiers de la capitale française. Il est en fuite et aurait bénéficié d'une aide précieuse au début de sa cavale. De Paris, le récit de notre correspondant Christian Panzou.
2 personnes proches du groupe de terroristes ont été inculpées pour leur implication dans les attentats de Paris. Ces 2 individus étaient en compagnie de Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe. Samedi matin, lorsqu'il a passé la frontière franco-belge, il l'aurait vraisemblablement exfiltré de la région parisienne. Ces 2 interpellations ont eu lieu en Belgique, à Molenbeek. C'est dans cette commune de Bruxelles que se concentre l'enquête des autorités françaises et belges. C'est là que Mohamed Abdeslam, le frère de Salah Ibrahim, a été longuement interrogé par la police. Il a logiquement été libéré et a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à voir avec ces attentats et surtout qu'il n'était pas au courant de la radicalisation de ses 2 frères. Enfin, les enquêteurs semblent avoir identifié le commanditaire présumé de ces attaques, Abdelhamid Abaoud. Il est lui aussi originaire de Molenbeek. Ce Belge de 28 ans, parti en Syrie en 2013, est déjà cité dans plusieurs dossiers liés au terrorisme en Europe. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Et intensification des frappes en Syrie avec un soutien de Washington et de Moscou, prolongation de l'état d'urgence en France, renforcement des forces de l'ordre. François Hollande a très nettement durci sa politique sécuritaire.
Et depuis 1961, le territoire français a connu plus de 180 attentats commis par des groupes extrémistes, indépendantistes, anarchistes, islamistes ou anti-juifs. Les attentats les plus meurtriers de son histoire, ceux du 13 novembre à Paris, ont ravivé la psychose vécue dans diverses vagues successives d'attentats terroristes, dont celle des années 80 avait été particulièrement marquante pour les civils. Nathalie Barge a joint la styliste franco-malienne Mariette Dico, disant résister contre la peur.
Ont peur, mais veulent braver leur peur. Mes 2 filles, une qui est venue s'asseoir hier soir pour me dire « Je vais devoir aller à l'école demain. » C'est vrai que je ne voulais pas qu'elle y aille, mais je ne peux pas laisser mes enfants être dans la peur, vivre dans la peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de perdre ma liberté. Nous avons besoin de ne pas avoir peur. Nous ne devons pas baisser les gardes. Nous devons dénoncer tous ceux qui sont en train d'essayer de nous faire peur pour nous faire perdre nos libertés en France. La France, pays de liberté, de droits de l'homme, la France où nous, d'origine malienne, nous nous sommes réfugiés pour notre réussite ou pour un peu plus de vie tranquille et libre, ou des gens qui ont fui la pauvreté, fui la mauvaise gouvernance. Nous sommes venus ici pour montrer combien est belle la culture dans son ensemble, dans tous les pays. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Je suis révoltée, atteinte dans mon cœur et dans ma dignité.
Les Syriens désireux de venir aux États-Unis font les frais des attentats de Paris. Près de la moitié des 50 États américains s'opposaient lundi à l'accueil des réfugiés syriens, au risque de faire l'amalgame entre réfugiés et terrorisme, dénoncé par le président Barack Obama. De l'Ohio au Texas, plus de 20 gouverneurs, presque tous républicains, mais aussi des candidats à la Maison-Blanche et influents membres du Congrès, ont annoncé ne plus vouloir accueillir de réfugiés syriens, de crainte qu'un éventuel terroriste ne se cache parmi eux.
Au Mali, un chef djihadiste dénonce l'accord de paix et appelle à combattre la France. Dans un enregistrement sonore de 20 minutes réalisé avant les attentats de vendredi à Paris et rendu public en octobre, selon plusieurs sources sécuritaires régionales, il approuve l'attentat de janvier contre la rédaction de Charlie Hebdo pour avoir caricaturé le prophète, estimant que ce journal n'a eu que ce qu'il méritait.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En Centrafrique, la mission de l'ONU en République centrafricaine devrait être renforcée par 300 casques bleus sénégalais à l'approche des élections de décembre. Ce sont des précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Ces renforts font partie d'une force de réaction rapide de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils seront redéployés pendant une période de 8 semaines et seront sur place dès que possible, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va demander le feu vert du Conseil. Celui-ci tenait lundi des consultations à huis clos sur la situation humanitaire et sécuritaire. L'Égypte devrait par ailleurs envoyer 750 soldats et la Mauritanie 140 policiers pour renforcer les 12 000 hommes de la MINUSCA. Ces renforts pourraient être sur place à temps pour une visite du pape François en Centrafrique les 29 et 30 novembre si elle est maintenue. Le premier tour du scrutin présidentiel et des législatives est prévu le 27 décembre et un référendum le 13 décembre. Un éventuel second tour est prévu le 31 janvier 2016.
En République démocratique du Congo, le nouveau représentant spécial des Nations Unies est arrivé à Kinshasa, Eddy Sango.
Maman Sambo Sidiku succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidiku était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il a été nommé début octobre pour diriger la mission onusienne la plus importante au monde, avec près de 20 000 soldats et policiers. Il arrive en RDC alors que les relations avec Kinshasa sont tendues depuis plusieurs mois. Il y a eu des divergences sur la façon de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays. Et des tensions politiques persistent autour de la tenue de la présidentielle censée avoir lieu en 2016. Dotée d'une brigade de quelques 3000 hommes, autorisée à recourir à la force, la MONUSCO a pour tâche de protéger les civils et de neutraliser la cinquantaine des milices dans l'est de la RDC.
Au Burundi, le directeur du groupe de presse Iwaku comparaissait lundi devant la Cour suprême dans l'affaire du coup d'État manqué du 13 mai 2015. Antoine Kabouraoué est le seul responsable de la presse privée à être resté dans la capitale burundaise. Après 4 heures d'audition, il est rentré chez lui, mais il doit rester à disposition de la justice. Sa défense affirme que rien ne peut l'impliquer dans ce putsch avorté. Nous avons joint à Bujumbura son avocat conseil, maître Lambert Nsambinama.
Rien ne le rattache à ces histoires de coup d'État. Seulement, nous craignons que ça le procède d'une manœuvre d'intimidation. Vu la situation dans laquelle nous sommes, c'est pratiquement le seul organe indépendant qui fonctionne pour le moment. Quand on commence à être convoqué dans des dossiers de coup d'État, alors qu'on est une personne qui n'a rien à voir avec tout cela, effectivement, si on est une personne raisonnable, il y a lieu de s'inquiéter. Mais d'emblée, rien ne concernait les articles qui auraient été diffusés ou envoyés pour l'audition d'aujourd'hui. Pour le moment, on ne peut pas divulguer tout ce qui faisait l'objet de cette instruction, mais précisément, le magistrat a vu visiblement qu'il n'y a aucune connexion de près ou de loin en rapport avec le coup d'État comme tel. Bien entendu, ça ne tient pas la route, pas du tout, parce qu'un journaliste est un journaliste. Je ne vois pas à quoi est-ce qu'il peut concourir à l'exécution d'un coup d'État.
En Angola, le procès de 17 jeunes opposants incarcérés depuis le mois de juin a débuté hier à Luanda sous haute surveillance policière, Claire Morin-Gibourg.
Parmi les 17 accusés, âgés de 19 à 33 ans, 15 se trouvent en détention depuis leur arrestation le 20 juin. Deux comparaissent en liberté sous caution. Le rappeur Louati Berao, l'un des accusés, avait mené une grève de la faim de 36 jours. Leur avocat, David Mendes, a affirmé ne pas avoir eu accès au dossier de 1500 pages. Tous les détenus ont dénoncé de mauvaises conditions sanitaires et des violations des droits de l'homme. Des journalistes et des membres du corps diplomatique ont été empêchés d'assister au procès. Ces jeunes sont accusés de rébellion et tentative de coup d'État. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison. La plupart sont journalistes, étudiants, ingénieurs ou même militaires. Ils font partie du mouvement révolutionnaire d'Angola, opposé au président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979 et dont ils demandent le départ. Le procès devrait se poursuivre jusqu'à vendredi.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Tout de suite, c'est la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Quelques 300 000 bénéficiaires de la réforme agraire au Zimbabwe, exemptés d'impôts jusqu'ici, vont désormais payer des taxes, rapporte l'AFP citant la presse nationale. Ils devront s'acquitter d'un loyer annuel de 3 à 10 dollars par hectare et un impôt pour le développement jusqu'à 5 dollars par hectare, notamment pour financer les routes et autres infrastructures dans les zones agricoles. En 2000, le gouvernement a lancé le programme de redistribution des terres des grandes exploitations de fermiers blancs à la population noire, dont une grande partie n'avait pas d'expérience agricole. Aujourd'hui, le Zimbabwe est obligé d'importer des céréales. L'Agence de protection de la faune au Kenya a promis lundi de détruire en 2016 tout le stock d'ivoire du pays provenant de 3820 éléphants abattus, soit plus de 137 tonnes. Certains spécialistes affirment que le nombre d'éléphants tués serait deux fois supérieur. Le président Uhuru Kenyatta a brûlé 15 tonnes d'ivoire en mars à Nairobi, le plus important volume jamais incinéré en Afrique. Il avait assuré que le stock entier serait détruit cette année, mais la mise en œuvre est plus longue que prévu. Ce stock illégal représente environ 280 millions de dollars. Selon l'ONU, 30 000 éléphants sont tués annuellement en Afrique. Le gouvernement camerounais a attribué au groupe de construction chinois Tianyuan un marché de plus de 4 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures sportives en prélude aux Coupes d'Afrique des Nations féminines et masculines en 2016 et 2019. Il s'agit notamment des stades de Limbé, l'une des villes qui abriteront les matchs de la CAN 2019.
Et on retrouve les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
Football éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA, zone Afrique.
Oui, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lions de la Teranga vont essayer de se qualifier. À l'aller à Madagascar, ils avaient obtenu un nul, deux buts partout. Le point avec Amdine Sy à Dakar.
Le Sénégal retrouve ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor Madagascar en match retour comptant pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018. Malmené et ballotté par les Malgaches lors de la première manche, les poulains d'Aliou Cissé qui ont arraché de justesse un nul après avoir été menés sur le score de 2-0 comptent se racheter devant leur public pour décrocher la qualification. Le milieu de terrain des Lions et d'Aston Villa, Idrissa Ganagay.
Si on met la pression qu'il faut et si on joue notre jeu, ça peut vite tourner à un match où on va dérouler tranquillement et si on ne fait pas ce qu'il faut, plus le match va avancer, plus on va se mettre la pression et plus ça ne sera pas bien pour nous. Donc il faut bien se préparer dès maintenant et essayer de marquer le plus rapidement possible.
Les Malgaches restent confiants. Selon leur coach, son équipe va marquer des buts. Dixit Frank Ranieri.
On verra les matchs. On va marquer les buts. 1-0 ou 2-0.
Rappelons que le vainqueur de cette double confrontation entre Lyon et Baréa compostera son ticket pour les phases de poule. Amédine Sy, Dakar, VOA Afrique.
Au stade du 4 août à Ouagadougou, les étalons du Burkina Faso, eux, vont essayer de remonter le score face aux écureuils du Bénin, des écureuils qui l'avaient emporté 2-1 à l'aller. Pour le sélectionneur Gernot Rohr, son équipe fera tout pour inverser la tendance. Il est au micro de Salif Kabouré à Ouagadougou.
L'enjeu majeur, c'est arriver à marquer quand même en premier cette fois-ci et relativement tôt pour que les joueurs prennent confiance. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont créés beaucoup d'occasions au match aller. Maintenant, on regarde ce match retour, on est déterminé, on est très très motivé et l'équipe va vouloir prouver d'entrée de match qu'elle mérite la qualification.
Quelles sont les autres confrontations de la journée?
Le Rwanda joue contre la Libye, le Niger en découdra avec le Cameroun, le Ghana sera face aux Comores, le Swaziland affronte le Nigeria, le Congo joue contre l'Éthiopie, l'Égypte joue contre le Tchad, l'Afrique du Sud sera face à l'Angola, la Côte d'Ivoire jouera contre son voisin, le Libéria, la Tunisie affronte la Mauritanie, l'Algérie joue contre la Tanzanie, le Cap-Vert sera face au Kenya et puis enfin le Mali jouera contre le Botswana.
On connaît déjà quelques qualifiés pour le troisième et dernier tour.
Oui, c'est le Marocain, la Zambie, la RDC, l'Ouganda, la Guinée et le Gabon. Les équipes qualifiées pour le troisième et dernier tour seront versées dans 5 groupes de 4 pays. Les matchs sont prévus entre le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2017. Les 5 vainqueurs de groupe se qualifieront pour la phase finale de Russie 2018. Et puis Tatiana, avant de nous quitter, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Dallas a mené 92 à 86 face à Philadelphie. Indianapolis et Chicago font match nul avec 93 points chacun. Boston bat largement Houston 105 à 89. Oklahoma City s'incline 93 à 106 face à Memphis. Petit score de 72 points pour Portland battu par San Antonio. Los Angeles perd avec 53 points contre 61 pour Phoenix. De nouveau avec vous, Tatiana Mosso, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Paris, au lendemain des attentats du 13 novembre, l'heure est au bilan et à l'analyse. Pourquoi les terroristes ont-ils choisi ces quartiers passants, populaires ? Réponse du politologue et sociologue français Vincent Gesser, contacté par Anastasie Tudiech.
Là, je pense que Paris, c'est clair que c'est parce que c'est le symbole de la capitale d'un pays qui est aujourd'hui fortement engagé dans le conflit syrien, et notamment fortement engagé au sens, je dirais, matériel, au sens militaire, mais aussi au sens symbolique, puisque la France a le discours le plus affirmé de lutte contre Daesh. On peut dire même qu'elle a un discours beaucoup plus affirmé que la plupart des autres puissances occidentales. Alors ensuite, pourquoi les quartiers passants ?
Oui.
C'est la politique de la terreur. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu observer dans l'histoire du terrorisme, qui sont des cibles souvent politiques et symboliques, tirées comme ça... sur toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des lambdas, des citoyens anonymes. C'est une volonté d'entretenir de manière permanente un climat de peur.
Ces terroristes sont français, enfin une partie d'entre eux l'est en tout cas, avec un passeport français né en France, comme l'étaient les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. La France est-elle devenue un vivier pour Daesh ?
Je pense que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de pays sont devenus des viviers. Elle est un vivier, pourquoi ? Parce que la France, effectivement, alors là il ne faut surtout pas rentrer dans des explications, je dirais, très complexes. Il y a une population musulmane qui est importante. Alors ça ne veut pas dire que ce soit les musulmans pratiquants, etc. Mais les groupes terroristes jouent sur un certain malaise identitaire, islamisent très rapidement un certain nombre de personnes, et donc du coup, effectivement, la France, mais pas seulement la France, on voit aussi la Tunisie, l'Égypte, la plupart des pays arabes et les pays, effectivement, où il y a aujourd'hui, on va dire, une dimension arabo-musulmane. Mais avec une très grande nuance et avec beaucoup de prudence, ce sont rarement des musulmans impliqués dans les associations musulmanes, les mosquées, oui, que j'appellerais les acteurs de cet islam de France, qui sont à l'origine à la fois de ces attentats et qui sont les exécutants. Et d'ailleurs, on le dit toujours, c'est quand les jeunes disparaissent des mosquées qu'on est souvent inquiet. Mmh. Ce n'est pas quand ils sont dans les mosquées que finalement ils sont recrutés, c'est plutôt quand ils en sortent.
Paris, oui, a commencé des frappes aériennes en Syrie dimanche, on, oui, le sait. Des bombardements suffiront-ils pour venir à bout de Daesh ?
Écoutez, non, moi je pense pas. Plus on frappe Daesh, plus on risque d'avoir les effets collatéraux catastrophiques dans l'espace public français et donc dans cette quasi-impossibilité de sécuriser à 100% l'espace public français, le territoire français aujourd'hui.
C'était le politologue Vincent Gesser, joint à Paris par Anastasie Tudiech. Au Burkina Faso, la campagne pour la présidentielle du 29 novembre entre dans sa deuxième semaine. Il y a 14 candidats en lice pour ce premier scrutin post-Compaoré. Pour le géographe Drissa Diarra, ce scrutin est plus que compétitif.
Évidemment, tout le monde a sa chance parce que chacun des candidats croit effectivement à sa victoire. On constate cela déjà. Et l'autre avantage ici est que le gouvernement de la transition joue, en tout cas, dans la mesure de sa possibilité, la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passés en tant que tel. Donc cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
On voit qu'il y a 14 candidats, mais il y a seulement deux femmes. Comment on peut expliquer cela ?
C'est la réalité politique qui est comme ça dans notre environnement politique. Les femmes hésitent effectivement à rentrer dans la politique. Même celles qui veulent y rentrer, effectivement, elles n'ont pas cette facilité-là, toujours. Parce que le terrain politique est un peu craint. Tout le monde veut que la femme s'engage effectivement sur le terrain politique pour s'affirmer, mais personne ne veut que sa propre femme s'engage. généralement, ce sont les femmes qui arrivent vraiment à s'affirmer, qui ont une forte personnalité, qui arrivent à faire cela. Et il ne faut pas oublier, la politique aussi, c'est le savoir intellectuel. Si on fait un sondage, en fait, à l'école également, on va constater une certaine disparité entre effectifs garçons et puis effectifs femmes. Cela se répercute nécessairement sur le terrain politique. C'est ce qui peut expliquer cette disparité criarde.
C'était Drissa Diarra, géographe burkinabé, au micro de Bagassi Kourin.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En République démocratique du Congo, les populations de l'Est du pays sont d'avis que les litiges fonciers sont l'une des causes profondes des conflits qui perdurent dans cette région. Mais depuis peu, de gros propriétaires fonciers permettent aux petits agriculteurs de cultiver leurs terres. Est-ce la solution au conflit de la terre ? Le correspondant de la VOA, Nick Long, a visité l'un de ces projets agricoles rendus possibles grâce à des terres appartenant à l'épouse du président Joseph Kabila. Son reportage est traduit par Jacques Aristide.
Nous sommes à Kiroliroué, petit village situé dans la province du Nord Kivu. Trois fois par semaine, des petits agriculteurs se mettent en équipe pour travailler un lopin de terre mis à la disposition des paysans. Après avoir labouré le sol la semaine dernière, ils procèdent maintenant à la plantation de pommes de terre. Plus vite, braille le chef d'équipe, tandis que les membres du groupe se motivent les uns les autres. La Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, la FOPAC en un mot, vient à leur aide. Elle apprend aux paysans les dernières techniques culturales et post-récolte. Mumbure Makuke est conseiller agricole à la FOPAC.
Le pâturage que vous avez vu, ça c'est pour la première dame de la République, Olive Lembe. Et lui a occupé une très grande partie où même la population devrait cultiver. Mais il a mis de quelques vaches, je peux dire que c'est pour garder ce pâturage.
Marie-Olive Lembe Kabila a donné le feu vert aux petits agriculteurs de cultiver une partie de ses terres. Un projet que l'épouse du président congolais a baptisé la ferme de l'espoir. De nombreux paysans ont peu d'accès à la terre, une bonne partie ayant été acquise par des éleveurs, souvent dans des conditions douteuses. Par la même occasion, le fermage, bail rural conclu entre un propriétaire et un preneur contre un loyer annuel, a beaucoup augmenté ces dernières années.
Par exemple, pour un hectare, on dit par saison, donc pendant 4 mois, vous allez payer 200 dollars. Beaucoup de gens ne sont pas à mesure, mais il y a des systèmes de faire les carrés. Un carré de 20 sur 20, vous allez louer ça à 10 dollars par saison.
La FOPAC tente d'éviter les conflits avec les éleveurs dont le bétail dévore souvent les champs.
Par exemple, là à côté, il y a des vaches, mais si nous cultivons, nous avons vu une fossée pour limiter le bétail de passer.
Même si les cultivateurs accueillent favorablement les nouvelles méthodes, ils déplorent toutefois le manque de fumier. Alors que 2 tonnes de semences améliorées de pommes de terre pour un hectare coûtent 1600 dollars. Josaphat Moussansa, un chercheur agricole, affirme que de nombreux agriculteurs ne peuvent pas se permettre de payer un loyer, encore moins d'acheter des tonnes de semences améliorées.
Il y a aussi une autre forme qui s'est faite, par exemple, ce que j'ai vu au niveau des Ntamugenga, c'est que la personne va travailler, on lui accorde une lopin de terre, et lors de la récolte, la personne va être en mesure de laisser soit 20% de cette production au gérant.
Avec l'amélioration des techniques agricoles, les propriétaires fonciers ne veulent plus se contenter des 20% qu'ils perçoivent des récoltes. D'où l'appel des agriculteurs au gouvernement congolais. Il faut, disent-ils, un accès plus juste à la terre.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Munganu à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
L'Église catholique a connu une croissance explosive en Afrique, même si elle a diminué en Occident. Alors que les études attribuent cette croissance principalement à la démographie, le taux de fécondité de l'Afrique dépasse de loin celui de l'Europe. Les fidèles de la plus grande Église catholique d'Afrique du Sud ont leur avis sur la question. Les explications avec John Lyndon.
«
Ceci est le son de l'Église catholique en Afrique. C'est fort, bruyant, en pleine croissance. Depuis 1980, l'Église catholique a connu une croissance astronomique de 238%. Près de 198 millions de fidèles, selon une étude publiée cette année par le Centre de recherche appliquée à l'apostolat. Cette croissance a éclipsé les autres régions, en particulier l'Europe, où la population catholique a augmenté seulement de 6% pour la même période. L'étude attribue l'énorme différence principalement à la fertilité. Mais les chiffres de la population ne disent pas toute l'histoire, souligne le père Reginald Anthony, qui dirige Regina Munti, la plus grande église catholique d'Afrique du Sud à Soweto. Cette église peut accueillir jusqu'à 7000 personnes et est souvent bondée le dimanche.
Il y a une relation continue en Afrique entre le monde spirituel et Dieu. Et l'évangélisation à travers les louanges a simplement approfondi cela dans de nombreux cas. Il y a aussi l'autre côté, ce que les gens ne sont pas aussi matérialistes comme dans le monde occidental, ce qui signifie que la croyance en Dieu pour la subsistance, pour l'existence, est encore très prise au sérieux par beaucoup d'Africains.
Membre du conseil paroissial, Lydia Machaba estime que l'Église a également profité de la conférence du Vatican II dans les années 1960 qui décrétait, entre autres choses, que les services ne doivent pas être en latin. À Regina Munti, par exemple, le père Anthony parle à la congrégation en anglais et en zoulou.
The Catholic Church.
L'Église catholique a toujours suivi Vatican I. Par conséquent, il a toujours été difficile pour les fidèles de comprendre la langue. Vous savez, à l'époque, c'était en latin. Et maintenant que l'Église a ouvert ses fenêtres, nous sommes tambour battant, nous sommes en Afrique. C'est une Église libre d'esprit.
Les jeunes paroissiens de Regina Munti disent qu'ils sont heureux de voir leur rang grossir, mais qu'ils aimeraient voir davantage. Chohole Folo Legodi, 21 ans, témoigne.
Je sens que nous pouvons faire mieux, mais je suis particulièrement heureuse de ce qui se passe en ce moment. Les gens viennent à l'église maintenant par rapport au passé, je crois. Donc, lentement, mais sûrement, je l'espère, nous y arriverons et remplirons les églises.
D'une certaine manière, l'Église africaine peut aussi entraver son succès. Les dirigeants catholiques africains ont remis en question ce qu'ils perçoivent comme un adoucissement des valeurs, notamment des vues sur l'homosexualité. À ce sujet, le cardinal Wilfrid Fox Napier d'Afrique du Sud accuse ses pairs européens libéraux de trahir l'essence même de la foi. Au moment où le pape François se prépare à faire une visite historique sur le continent, tous les regards des fidèles catholiques seront sur lui. Et beaucoup espèrent que ce pape, connu pour son message d'optimisme, joindra sa voix à la joie, à l'espoir et au rythme du continent, au lieu simplement de venir faire un prêche.
Nous partons maintenant en Guinée pour parler des fripes. De nombreux diplômés font de la vente d'habits de seconde main importés d'Europe, leur gagne-pain. Confrontés aux difficultés de trouver un premier emploi, ces jeunes passent leur quotidien dans le grand marché de Conakry. Correspondance de Zakaria Camara.
Diplômé, je suis de la 47e promotion de l'économie et de gestion de l'université générale de la Grande de Symphonia.
Diplômé de l'université de l'Hôtellerie de Fula Madina.
Ousmane et Mohamed font partie des diplômés sans emploi qui vendent à Madina Bordeaux.
Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont diplômés, ils ont fini l'université. Donc au lieu de rester à la maison, ils préfèrent venir ici d'abord pour chercher leur survie.
Je ne dépends plus de la famille. Je dépends de moi-même. Je me suis marié, je me débrouille avec ça, je prends soin de la famille.
Au moins 150 jeunes sortis des universités de Guinée exercent ici la vente de vêtements d'occasion. Daouda est l'un d'eux, au milieu d'une dizaine d'autres, tous autour d'un ballot de friperie nouvellement ouvert, il explique son activité.
Nous sommes catégorisés ici. Il y a des trières, il y a des déballeurs, il y a des rétrières, il y a des trières. Donc c'est catégorisé. Donc c'est des spécialités. Moi, j'aime retrier. Après avoir trié, je viens, moi, je retrie dedans, j'envoie ça à ma place pour revendre.
Alors que Daouda retrie les vêtements, un bordelais, c'est ainsi qu'on les appelle, nous indique la boutique de Mamadi, le doyen. Ça fait plus de 20 ans qu'il vend des pantalons et chemises pour élèves.
Ici, moi, je vends des bleus blancs. Ça fait 20 ans que je suis dans les friperies. Tous les élèves, ils me connaissent. Son parent aussi. J'ai aidé beaucoup les élèves. J'ai conseillé dans l'affaire là.
En Guinée, environ 60% des jeunes dont l'âge varie autour de 25 ans sont touchés par le chômage. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.